Bonsoir, bipartite RDC Ouganda vers une réouverture des ambassades des deux pays à Kinshasa et à Kampala. Quelles sont les retombées de cette bipartite sur le plan politique et économique? Quel sera l'impact sur les rapports entre les États des Grands Lacs de cette cinquième session de la Grande Commission mixte Ouganda-RDC? C'est le thème de cette émission sur l'éventail des réactions des auditeurs. Nous avons Alain Alembe d'Ouvira dans le Sud Kivu. Il nous a écrit et il pense que la réouverture des ambassades des deux pays confirmera les bonnes relations entre les États des Grands Lacs. Longoulou Baende estime que la bonne diplomatie ne peut régner que si les deux pays mettent à l'écart leurs agendas cachés et se réconcilient mutuellement. Kabamba de Kisangani dans la province orientale veut savoir où en est-on avec les amendes infligées à l'Ouganda pour les pillages des ressources congolaises par la Cour internationale de justice. Vous aurez des explications dans cette émission avec nos invités déjà présents. Lambert Mende, ministre des hydrocarbures au gouvernement national. José Ngbanda, député national RPD national et rapporteur de la commission relations extérieures de l'Assemblée nationale. Et Jean Bosco Lalo, président de la société civile de l'Ituri. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Bipartite RDC Ouganda, autrement dit la cinquième session de la grande commission mixte Ouganda-RDC vers une réouverture des ambassades des deux pays à Kinshasa et à Kampala. Quelles sont les retombées de cette bipartite sur le plan politique et économique? Je vous signale que c'est du 13 au 15 décembre dernier que s'est tenue à Kampala, en Ouganda, la cinquième session de la Grande Commission mixte ougando-congolaise. Parmi les points essentiels traités figure la question de la réouverture prochaine des ambassades des deux pays, mais aussi celle de l'exploitation commune du pétrole dans le lac Albert. Nazaire Nkoko a suivi ses travaux sur place à Kampala. Il s'entretient avec Claude Kianza, on les écoute.
Nazaire Nkoko, vous étiez notre envoyé spécial à la bipartite RDC Ouganda à Kampala. Quelles sont les retombées politiques de cette bipartite?
Claude, la première retombée politique de cette bipartite, c'est que les deux pays ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques au niveau des ambassades. Et pour cela, la période limite a été fixée au premier trimestre 2008. Par ailleurs, les délégations ont aussi décidé de l'administration commune de l'île de Rukwanzi jusqu'à ce qu'intervienne la délimitation des frontières. Et à ce sujet, la commission mixte chargée justement de cette question des frontières, parce qu'il n'y a pas que Rukwanzi qui pose problème, devra se réunir à Bunia dans la première quinzaine de janvier 2008. On devra retenir que Rukwanzi est économiquement très stratégique en raison du pétrole qu'il contient.
Et qu'en est-il du différend judiciaire entre les deux pays? On sait que la Cour internationale de justice avait condamné l'Ouganda à dédommager la RDC pour invasion de son territoire par l'armée ougandaise.
Claude, cette question a aussi été évoquée. Je vous laisse à cet effet suivre la réponse de Sam Kutesa, ministre ougandais des Affaires étrangères. Nous avons été à la Cour internationale de justice qui a demandé à l'Ouganda de dédommager la RDC, mais sans déterminer le montant. Il revient maintenant aux deux pays de fixer ce montant. Mais ce qui doit être mis en exergue désormais est le futur et la façon dont nous devons coopérer et développer nos deux pays dans la paix et la prospérité.
Nazaire Nkoko, y a-t-il aussi eu des retombées économiques, notamment en matière d'exploitation commune du pétrole dans le lac Albert? Qu'est-ce qui a été décidé finalement?
Effectivement, Claude, les deux parties ont convenu de poursuivre leurs discussions pour parvenir à l'exploitation commune du pétrole dans la zone d'intérêt commun, mais aussi sur l'installation d'une raffinerie d'or en terre congolaise. Les modalités de coopération devront d'abord être finalisées entre les deux parties dans la deuxième quinzaine de janvier 2008 pour le pétrole, a indiqué pour sa part le ministre congolais des hydrocarbures, et en février pour la raffinerie d'or, a indiqué de son côté le ministre congolais des mines. Dans ce secteur économique, la coopération devra s'étendre aussi sur l'énergie et la douane.
Merci beaucoup, Nathan Coco.
Merci à vous, Claude Estenda.
Voilà, nous avons dans cette émission Lambert Mende, ministre des hydrocarbures au gouvernement central. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas ministre des Affaires étrangères, on le sait, mais puisque vous avez pris part aux travaux de Kampala, à quand exactement la réouverture des deux ambassades annoncées au niveau de Kinshasa et Kampala, monsieur le ministre Lambert Mende?
Je crois que cela a été dit, on s'est mis d'accord sur le premier trimestre 2008.
Oui.
Les ambassades existent, il y a des chargés d'affaires, il y en a un à Kampala, le nôtre, puis il y a un à Kinshasa, celui de l'Ouganda. Ce qui a été décidé, c'est de relever le niveau de représentation diplomatique au niveau d'ambassadeur, c'est-à-dire la normalisation finale des relations qui existent entre deux pays qui veulent gérer en paix leurs relations. Et donc c'est au cours du premier trimestre 2008 qu'interviendra cet échange d'ambassadeurs.
José Nguanda, vous êtes député national et surtout rapporteur de la commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Comment vous avez accueilli cette nouvelle dans le réchauffement des relations diplomatiques entre l'Ouganda et la RDC?
Bien, nous pensons quant à nous que c'est une bonne chose que de normaliser les relations entre les deux pays qui étaient en guerre il y a quelques années. Et donc, nous encourageons cette démarche et nous pensons que la réouverture de nos différentes ambassades ne peut que permettre d'autres échanges sur le plan notamment économique. Et donc, nous sommes d'accord aussi pour que les deux pays puissent normaliser leurs relations.
Et puisque l'Ouganda est à une frontière avec la RDC, c'est la province orientale qui est la plus proche justement à ce niveau-là, nous avons dans cette émission Jean Bosco Lalo, vous êtes président de la société civile de l'Ituri dans la province orientale. J'imagine que c'est de la satisfaction au niveau de la population de l'Ituri, en particulier la province orientale en général.
Oui, certainement, parce que notre district a toujours vu essentiellement des produits manufacturés de l'Ouganda. Et même nos relations pendant les moments les plus difficiles n'ont pas été mauvaises avec l'Ouganda, parce que nous avons toujours réussi par les Ougandais et que nos commerçants ont fait les transactions en Ouganda sans aucun problème. Et même jusqu'à ce jour, la situation dans les frontières ou même les états que les Ougandais ont fait les Congolais en Ouganda, je pense que là ça va et qu'avec l'avis des ambassades,
J'espère que ça va s'améliorer davantage. Mais je reviens vers vous, monsieur le ministre Lambert Mende, ministre des Hydrocarbures. Je vous pose encore ces questions-là un peu sur le plan politique, tout simplement parce que vous avez pris part à ces travaux et puis vous êtes quand même membre du gouvernement central. Dans ces travaux sur le volet politique, on a aussi évoqué, vous avez évoqué aussi la question de l'île de Rukwanzi. Cette île qui est riche de pétrole, parce qu'il est justement dans la zone pleine de pétrole au niveau du lac Albert, île disputée aujourd'hui entre l'Ouganda et la RDC. Il a été question de démilitariser l'île de Rukwanzi et certains villages avoisinants. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est chose faite?
Oui, après avoir vérifié le rapport des deux parties concernant la situation sur terrain à Rukwanzi, nous sommes arrivés à la conclusion rassurante qu'effectivement la démilitarisation a été réalisée à Rukwanzi. Il n'y existe aujourd'hui que des unités de police congolaises. Nous attendons d'y recevoir quelques unités de la police ougandaise en attendant que la délimitation définitive puisse intervenir. Il y a notre administration civile et l'administration civile ougandaise va se joindre aussi à la nôtre pour attendre justement l'échéance de la délimitation définitive de la frontière. Donc Rukwanzi pose problème parce que nous avons une situation assez mouvante au niveau physique. Il y a cette rivière Semliki qui devait servir de référence au tracé de la frontière, qui a servi de référence en 1915. Or, vous savez, les lits de rivière bougent. La Semliki a bougé. Or, il y a un principe dans les États africains, un principe consacré par l'Union africaine, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et donc, nous considérons que la frontière, c'est celle qui a été tracée en 1915 par le roi des Belges et le roi de l'Angleterre. Or, cette frontière était sur le lit de la rivière Semliki, le Talweg, c'est-à-dire le niveau le plus bas de la vallée, en 1915. La rivière ayant bougé d'ici de 1915 jusqu'à aujourd'hui, tout le problème, tout le défi. Les experts qui vont se rendre, experts ougandais, congolais, belges et britanniques, qui vont se rendre sur le site, sera de retrouver le Taloueb de la Semliki en 1915. Oui. Ce n'est pas impossible.
Ok. Et puisque vous avez évoqué, monsieur le ministre, la présence, la démilitarisation de Rukwanzi, les dernières informations, parce que vous avez parlé, vous avez confirmé la présence des policiers congolais, mais les dernières informations que nous avons, il y a effectivement 10 policiers ougandais, déjà à Rukwanzi, mais il y a aussi 30 policiers ougandais, ce sont les dernières nouvelles. Comment déjà vous pouvez expliquer cet écart, vous, monsieur le ministre Lambert Mendès?
Je pense que c'est tout simplement un problème de mise en place, c'est un processus. S'il y en a moins du côté congolais que du côté ougandais maintenant, c'est une évolution par rapport à celle que nous avons connue au moment de la réunion. Cela veut dire que dans quelques jours, peut-être dans quelques heures, en fonction de la diligence de nos commandants sur place, le nombre correspondant pour faire équilibre des policiers congolais va arriver sur l'île, parce que c'est ça l'accord.
Réaction à ce niveau pour de vous, José Ngbanda, député national, RCD national.
Oui, monsieur le journaliste, je ne sais pas si le ministre a toutes les informations depuis il y a 48 heures, parce que quand vous m'avez prononcé que je devais bien participer à cette émission, nous avons essayé de vérifier ce qui se passe à l'île Rukwanzi. Il est à une patrouille de la marine ougandaise qui est en train de pourchasser les Congolais. Et à notre, à l'information de notre possession, il est fait état que la grande partie de cette île appartient à la République démocratique du Congo, mais l'Ouganda voudrait occuper la grande partie de cette île. Et donc, la police ougandaise qui est là, est en train de chasser des Congolais qui habitent le passage de cette île. Et donc, ça, nous avons eu l'inquiétude sur les prestations cachées de la République ougandaise. Je ne sais pas si le ministre a ces informations-là.
Monsieur le ministre, vous pouvez répondre avant de faire intervenir, parce que je voulais, vous allez répondre, en fait, préparer vos réponses. On va d'abord poser la question à Jean Bosco Lalo. Vous êtes président de la société civile et vous vivez sur place. Qu'est-ce que vous pensez de, est-ce que vous confirmez ce que dit José Ngbanda, le député national, que la marine ougandaise pourchasse des Congolais au niveau de l'île de Rukwanzi? Est-ce que vous avez cette information, vous?
Oui, monsieur le journaliste, je pense qu'il parle de Rukwanzi, mais ils ont eu à projeter le Congolais, même au-delà de Rukwanzi, ils ont abattu, il y a de cela quelques mois, ils ont abattu 6 Congolais, c'était tous les affaires de Congolais, même ils étaient sous la barre de la Monique, et même cette dossier aussi à quoi là-bas au niveau de Grenoble, qu'on a fait aussi. Et à part ça, par rapport à Rukwanzi, nous avons connu Rukwanzi comme un territoire congolais depuis toutes les années, et qui est d'ailleurs actuellement avec la baisse du niveau d'eau, la rivière est rentrée dans son lit ordinaire. Et que c'est le moment même, c'est le moment même indiqué pour qu'on puisse identifier la deux frontières, parce que la frontière est naturelle.
Mais ce que vous dites là, vous avancez des événements qui se sont déroulés avant les travaux de la bipartite. Est-ce qu'il y a les mêmes informations se confirment aujourd'hui que malgré la bipartite, malgré la cinquième session de la grande commission mixte ougando-congolaise, que la marine ougandaise continue à pourchasser les Congolais? Est-ce que vous avez ces infos là?
Non, actuellement il y a une accalmie, mais au moins, si pas à Rukwanzi, on voit bien que l'Ouganda voulait que les Congolais, donc, qui sont ceux du Rukwanzi, puissent bien s'éloigner progressivement. Donc, il y a un mécanisme qui n'aménage pas les Congolais qui habitent Rukwanzi et qui, d'ailleurs, soit fait de citer progressivement. Mais je pense que les choses vont s'arranger avec cette bipartite.
Oui, monsieur le ministre Lambert Mende, comment est-ce que vous pouvez répondre à ce qu'a dit le député national José Ngbanda?
Oui, ce sont des informations que nous devions pouvoir vérifier très rapidement au ministère de l'Intérieur. En ce qui me concerne, jusqu'au moment où j'abordais cette émission, les informations sont que nous sommes dans la phase de mise en œuvre de cet accord qui est sorti de la cinquième session de la grande commission mixte Ouganda-République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a eu effectivement des événements très triste du décès de beaucoup de nos compatriotes autour de Rukwanzi, entre Rukwanzi et Kasenyi. C'est pour cela même que le rendez-vous que nous avions pris en Gourdoto n'avait pas eu lieu, parce que nous avons tenu comme gouvernement à protester contre ces assassinats injustifiés. Nous avions demandé des explications à la partie ougandaise, qui a finalement accepté, nous avons été informés de cela, de constituer une commission mixte pour enquêter sur ces événements. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'éléments qui nous puissent nous pousser à dire que les Ougandais chassent les Congolais de l'île de Rukwanzi. S'il y avait patrouille de la marine, où se déroule-t-elle? Est-ce que c'est sur terre? Puisque la marine, en réalité, son champ de déploiement, c'est sur l'eau. Ce n'est pas sur l'île. C'est l'île, c'est une terre. Et donc là, je n'ai pas d'informations. Je ne voudrais pas aussi que nous puissions plonger dans des procès d'intention, puisque nous entendons dire l'Ouganda voudrait, l'Ouganda veut. Non, nous, c'est ce que l'Ouganda fait qui nous intéresse. Et nous sommes là avec l'Ouganda. S'ils font cela, notre police est là pour nous en informer. Nous prendrons les mesures qui s'imposent.
Merci, monsieur le ministre. Bipartite, RDC Ouganda, vers une réouverture des ambassades des deux pays à Kinshasa et à Kampala. Quelles sont les retombées de cette bipartite sur le plan politique et économique? C'est le sujet de cette première partie de cette émission. Vous savez, je vous informe que nous recevons Lambert Mende, ministre des hydrocarbures au gouvernement central, José Nganda, député national et RCD national et rapporteur de la commission relations extérieures à l'Assemblée nationale. Nous avons aussi Jean Bosco Lalo, président de la société civile de l'Ituri. Volet économique de ce sujet, d'après l'accord de Ngourdoto, monsieur le ministre Lambert Mende, l'accord qui avait été signé en Tanzanie, parce que là, à Kampala, vous avez fait le suivi de cet accord. Donc, les deux pays devaient envoyer un mois après des experts en hydrocarbures dans les deux ambassades congolaises et ougandaises qui ne sont pas encore rouvertes. Donc, ces ambassades, à quand la nomination justement de ces experts en hydrocarbures qui devaient travailler dans les deux ambassades, monsieur le ministre Lambert Mende?
Tout d'abord, je dois vous rassurer, les ambassades fonctionnent. Elles sont ouvertes.
Mais si on n'a pas encore d'ambassadeurs comme ça.
C'est le niveau du personnel qui gère les ambassades qui est plus élevé, qui est plus bas et qui doit être relevé. Donc les ambassades existent. Donc nous aurions pu affecter les experts. Moi, l'expert qui va fonctionner à Kampala et mon collègue, le ministre Daoudi de l'Ouganda, l'expert qui va fonctionner à Kinshasa.
Et pourquoi ce n'est pas fait jusque-là?
Ça n'a pas été fait parce que nous avons été perturbés et sérieusement perturbés par les incidents qui sont survenus sur le lac Albert, quelques semaines après Ngourdoto, des Congolais qui ont été tués sans qu'aucune explication ne nous soit donnée, et il a été signalé que des militaires ougandais avaient été mêlés à ces incidents. Le président de la République et le chef du gouvernement ont donc décidé de stopper les missions qui devaient nous conduire à aller procéder à cet échange d'experts jusqu'à ce que des explications nous soient données sur ces morts. Il y en a eu quand même près d'une dizaine. C'était pas banal pour nous et donc ça a donné du retard. C'est pourquoi c'est maintenant que nous reprenons ce processus.
Oui, mais ça va être fait quand?
Maintenant, nous avons rendez-vous au mois de janvier, déjà deuxième quinzaine de janvier. J'irai probablement avec l'expert congolais et j'espère ramener de là l'expert que mon homologue ougandais désignera pour siéger à Kinshasa.
Oui. Une autre question, parce que nous restons dans votre domaine, hein. Vous êtes ministre des hydrocarbures au gouvernement central, Lambert Mende. Certaines sources, évidemment, parlent d'un milliard de barils comme réserve de pétrole du lac Albert. Est-ce que vous confirmez cette information?
La seule chose que je peux dire, parce qu'on ne peut pas donner des chiffres si on n'a pas de soubassement scientifique sérieux et technologique, la seule chose qu'il m'est permis de dire aujourd'hui, c'est que les réserves pétrolières du lac Albert sont importantes, et je dirais même très importantes. De quel ordre? 1 milliard? Moins d'un milliard ou plus? J'attends que les experts que nous avons déjà commis puissent nous ramener des estimations beaucoup plus pointues.
Et comment vous pensez exploiter ce pétrole, justement, d'abord avec les Ougandais et puis du côté congolais? Comment vous pensez le faire?
Tout d'abord, qu'il soit clair que l'accord que nous préparons avec la partie ougandaise et dont les chefs d'État de nos deux pays ont jeté les prémices en Ngourdoto prévoit une chose: l'exploitation commune des réserves communes. Tout ce qui n'est pas commun, donc toute nappe qui ne traverse pas notre ligne frontalière, est exploitée par chaque pays conformément à sa propre législation. Donc nous devons d'abord établir qu'une nappe est transfrontalière avant de négocier concrètement son exploitation commune par nos deux pays.
Et comment vous réagissez, José Nganda, sur l'exploitation en vue, hein, on peut le dire, commune du pétrole sur le lac Albert entre la RDC et l'Ouganda?
Disons, jusque-là, nous pensons que nous avons des experts compétents qui négocient très bien, mais aussi par rapport à ce dossier, il y a une crainte.
Ok.
Selon les informations à notre possession, parce que nous n'avons pas encore ce projet d'accord, les informations à notre possession font état de la mise à disposition de ce gisement, des équipements qui viendraient de l'Ouganda. Avec cet équipement, nous considérons qu'il y a un danger, il y a un risque pour que nous soyons en dehors de l'exploitation et que seuls les experts ou les agents ougandais puissent mettre à notre disposition la quantité de barils qui pourraient être produits. Et donc, nous estimons que ceux qui négocient ne puissent pas se contenter seulement des éléments qui seraient mis à disposition par les experts ougandais, mais que tous puissent mettre en au travail pour que nous ayons tous les mêmes éléments et que nous ne soyons pas roulés par les Ougandais. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que les équipements viendraient de l'Ouganda, et avec ça, nous risquons de connaître les mêmes problèmes que nous signons avec l'accord que nous avons signé avec l'Angola. C'est bon, voir des jugements, mais je crois que c'est mieux d'ouvrir l'aide et les bancs pour que l'exploitation de ces jugements puisse bénéficier aux Congolais.
Et quelle est la préoccupation maintenant de la population de l'Ituri sur place? La question vous est destinée, Jean Bosco Lalo, puisque vous êtes de la société civile de l'Ituri.
Oui, monsieur le journaliste, ce que nous avons entendu depuis le passage du ministre de l'Agriculture de l'Ituri, où il avait promis que l'entreprise qui avait gagné le marché, qui avait gagné les deux blocs, allait commencer les travaux dans les mois qui suivaient. Et jusqu'à ce jour, on a plus aucune suite. Et aussi au sujet de l'exploitation commune de Rufandi, monsieur le journaliste, il faut savoir que la guerre qu'on a connue à l'Ituri avait comme soubassement, entre autres, ces pétrole-là qui est transfrontalier. Et aujourd'hui, dans l'accord de Ngudoto, il y a aussi le principe où ils vont mettre à jour. Donc, il y a des accords qui sont passés avant 1990 autour de ces pétrole-là. Et aujourd'hui, cet accord revient encore, et qu'on en parle, et on dit qu'il y aura mise à jour donc, d'un accord qui a été signé le 23 juin 1990. Et nous pensons quand même qu'il y a des agendas qui étaient cachés depuis tout le temps de l'histoire, qui aujourd'hui ça va sortir. Nous voudrions que tout ce qui a été signé avec l'Ouganda autour de cet accord de pétrole soit mis sur la table, et que même les députés puissent en parler après que la lumière puisse apparaître.
Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous répondez, Lambert Mende, ministre des Hydrocarbures, parce que déjà là, on a, parmi les réactions des auditeurs, il y a Longulu Bende qui a dit que la bonne diplomatie ne peut régner que si les deux pays mettent à l'écart leurs agendas cachés et se reconsidèrent mutuellement. Et là, vous avez suivi Jean Bosco Lalo, justement, qui évoque cette question des agendas cachés. Est-ce que les contrats, des accords signés pendant la guerre, ça c'est lui qui dit, et ça l'engage, parce qu'il dit que le pétrole était notamment au centre de la guerre qu'il y a eu entre l'Ouganda et la RDC. Et puis, il pose aussi la question, je crois que vous notez toutes ces questions, sur l'entreprise qui a gagné le marché pour exploiter ce pétrole. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus? Autre question à laquelle vous allez répondre, c'est la question de José Ngbanda, le député national qui est aussi dans cette émission. Lui, c'est en fait, il s'inquiète que ce soit des équipements ougandais qui soient utilisés pour exploiter ce pétrole. Est-ce que vous allez veiller à cela pour que la RDC ne soit pas roulée dans cet accord, monsieur le ministre Lambert Mende?
Mais tout d'abord, j'apprends beaucoup de choses au cours de l'émission, mais en réalité, ce sont des choses qui ne sont pas du tout fondées. Il n'y a pas, il n'est pas prévu une mise à disposition d'équipements qui viendraient de l'Ouganda, tout simplement parce que l'étape de mise à disposition des équipements qui viendraient de n'importe où est une étape de mise en œuvre. Or, la mise en œuvre ne peut venir qu'après un accord qui fixe les principes de la coopération entre l'Ouganda et nous en matière pétrolière. Et c'est ce que nous sommes occupés à discuter. Je ne vois pas comment, n'ayant pas encore signé un accord qui régit les principes de notre collaboration, nous en serions déjà à savoir de quels équipements ces chantiers auraient besoin, qui les fournirait.
Tout à fait,
tout à fait une autre étape. Donc il ne faut pas que l'on mette la charrue avant les bœufs. D'abord, nous devons savoir quels sont les principes. C'est un des points de la petite divergence qui nous a opposé un peu à nos interlocuteurs ougandais, qui fait que nous devons parler maintenant de nouveau au mois de janvier. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus.
Oui.
Concernant les préoccupations du président de la société civile de l'Ituri, je peux accepter son analyse. C'est possible que la guerre ait eu, entre autres causes, le pétrole, ce n'est pas exclu. Lorsqu'on prend conscience de l'importance des réserves dans ce lac Albert, et que l'on constate aussi plus ou moins l'irrationalité de ces guerres qui se sont répétées avec les interventions étrangères, c'est possible ce qu'il dit, mais je voudrais aussi lui dire que l'accord de 1990 a été dénoncé par le chef de l'État, a été dénoncé par le gouvernement. C'est ainsi qu'il est aujourd'hui question de réécrire cet accord, de revisiter. C'est un tactique de revisitation d'un accord. Donc on ne peut pas nous accuser de vouloir faire revivre un accord que nous avons dénoncé. C'est pourquoi nous avons remis un draft à la partie ougandaise et nous allons discuter d'un nouvel accord, même s'il y a des éléments de l'accord de 90, il n'y avait pas encore la guerre en 90.
Il faut terminer sur
ce nouvel accord.
Oui, sur l'entreprise.
Alors, j'apprends également qu'il y a une entreprise qui a gagné le marché. Non, nous n'avons pas donné un contrat à une entreprise. Nous avons trouvé une entreprise qui détenait un contrat de partage de production que nous avons déclaré nul et de nul effet, Tullow Oil Heritage. Nous avons déclaré ce contrat nul et de nul effet parce qu'il a été passé dans des conditions irrégulières dans le cadre de la revisitation des contrats. Et donc, pour l'instant, nous avons remis à la compétition ces blocs et nous discutons avec ceux qui veulent soumissionner, y compris Tullow. Mais aucune décision n'a encore été prise et les Congolais seront informés du moment où le gouvernement prendra sa décision.
Deuxième partie de cette émission, bipartite RDC Ouganda vers une réouverture des ambassades des deux pays à Kinshasa et à Kampala. Quel sera l'impact sur les rapports entre les États des Grands Lacs? Nous sommes à vous dans un instant avec Lambert Mende, ministre des Hydrocarbures au gouvernement national, José Ngbanda, député national RCDN national et rapporteur de la Commission Relations Extérieures à l'Assemblée nationale, et Jean Bosco Lalo, président de la Société civile de l'Ituri.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
Quel sera l'impact sur les rapports entre les États des Grands Lacs de la bipartite RTC Ouganda avec l'annonce de la réouverture en vue des ambassades des deux pays à Kinshasa et à Kampala? Pour le professeur Ndécho, spécialiste en droit et relations internationales africaines, mais aussi membre du RCD d'Azarias Roubérois, le prochain rétablissement des relations diplomatiques entre la RDC et l'Ouganda augure de la normalisation des rapports entre le Congo-Kinshasa et les autres pays de Grand Lac. Le professeur Ndécho est interrogé par Claude Kenza.
Je pense qu'il y a, le Rwanda, il y a le Burundi. Si ce processus continue, on peut prédire que d'ici peu, dans quelques temps, n'est-ce pas, il peut y avoir des relations diplomatiques directes entre le Burundi, n'est-ce pas, et la République démocratique du Congo.
Le rétablissement prochain de relations diplomatiques entre la RDC et l'Ouganda peut apporter une sorte de détente dans les relations assez tendues quand même dans la région des Grands Lacs.
Donc certainement, c'est déjà un signe finalement, n'est-ce pas, qui est entre l'Ouganda, la République démocratique du Congo, il y a entente, il y a relations amicales, que finalement ils se sont entendus par les négociations, n'est-ce pas, de faire l'éponge, d'effacer pratiquement le passé, les malentendus du passé. Donc c'est ça la signification. Et je crois il faut que je vous ramène à ce chantier du président de la République, n'est-ce pas, où il nous propose précisément une diplomatie de développement.
Vous êtes de cet avis, José Ngbanda, vous qui êtes rapporteur de la Commission des Relations Extérieures à l'Assemblée nationale, est-ce que vous êtes de l'avis du professeur Ndécho sur les faits d'entraînement du réchauffement des relations entre la RDC et l'Ouganda sur le reste des pays des Grands Lacs?
Oui, affirmatif, je partage le même avis du professeur. Je crois qu'en dehors de l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, nous devons normaliser le même rapport avec la RCA, parce que comme vous le savez, la frontière
RCA, RDC est fermé depuis la guerre, la rébellion. Et donc nous pensons que effectivement la réouverture de nos ambassades pourrait normaliser nos relations et permettre ainsi des échanges commerciaux et même politiques. Donc c'est une bonne chose. Et c'est ce que nous avons dit au début de cette émission, que nous ne voyons pas des clients capacités et nous encourageons que ce processus puisse aller de l'avant pour que nos deux ambassades soient opérationnelles.
Est-ce que vous pensez que la RDC doit faire de même avec le Rwanda et le Burundi?
Pourquoi pas? Nous sommes des pays voisins, nous sommes obligés et condamnés à vivre ensemble. Et je crois qu'il est important que nous puissions raffermir nos relations diplomatiques. Et pour ce faire, il est important aussi que nous puissions réouvrir nos ambassades. Je crois qu'il y a quelques jours ou quelques mois, le ministre des Affaires étrangères avait annoncé la réouverture de notre ambassade au Rwanda et la réouverture de l'ambassade du Rwanda en RDC. Donc nous pensons que c'est une bonne chose. Nous sommes obligés d'être ensemble et de cohabiter ensemble.
Et qu'est-ce que vous avez gagné au niveau de la population en Ituri, Jean Bosco Lalo, parce que vous intervenez à partir de l'Ituri où vous habitez?
Oui, en tout cas, nous pensons que cette démarche de la sécurité diplomatique est même imputable et ça vient couronner des efforts qui ont déjà commencé depuis de longues années. Et dans le processus de développement, on ne peut pas évoluer seul, on ne peut évoluer qu'avec les autres. Et cette démarche aujourd'hui permettra à ce que les Ougandais aussi soient au Congo ici à l'aise. Parce que nous avons remarqué, pendant que les Congolais qui vont en Ouganda étaient plus ou moins à l'aise, les Ougandais qui voudraient entrer au Congo, et ça, c'est fait à discuter, même menacer. Alors, nous voudrions que ça fait soit que cette amélioration puisse porter un mouvement définitif. Et aussi, nous voudrions que ces états soient sincères et que cette autorité puisse permettre à ce que tout ce qui s'est passé dans les temps, s'il faut réparation, qu'il puisse réparer certains préjudices. C'est le cas, par exemple, de l'Ituri, où la guerre qu'on a dit, qui est technique, la guerre sur laquelle on a cité à un moment les tribus Hena et Lendu, et si le soubassement était autre que tout cela, je voudrais qu'aujourd'hui, il y ait un regard de pitié, que ce regard soit apporté vers cette de la société, dont l'image était salie dans le monde entier à cause de tout ce qui est arrivé à l'Ituri.
Monsieur le ministre Lambert Mende, ministre des Hydrocarbures, vous avez pris part à ces travaux, je rappelle, les travaux de la grande commission mixte Ouganda-RDC à Kampala. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Jean Bosco Lalo de l'Ituri qui vous dit que ces accords, notamment avec l'Ouganda, avant d'être étendus à d'autres pays, doivent être sincères? Et il insiste sur la reprise des relations avec l'Ouganda, qu'il ne faut pas oublier les préjudices subis par la population de l'Ituri. Et là-dessus, il y a une réaction de Kabamba de Kisangani, c'est l'auditeur, il est dans la province orientale justement. Il veut savoir où en est-on avec les amendes infligées à l'Ouganda pour le pillage des ressources congolaises par la Cour internationale de justice. Lambert Mende, on sait que la RDC avait porté plainte contre l'Ouganda pour pillage, occupation illégale de cette partie du territoire congolais. Et la RDC a même réclamé quelque chose allant entre 6 et 10 milliards de dollars. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous avez passé table rasa? Vous avez effacé tout cela? Vous avez oublié? Vous repartez, on repart à zéro?
Au contraire. Je rappelle qu'Angourdoto, le président Kabila, avait signé avec son homologue Yoweri Museveni une déclaration dans laquelle il se promettait de mettre ensemble une commission pour rendre applicable l'arrêt de la Cour internationale de justice qui avait condamné l'Ouganda à des dédommagements. La Cour n'a pas précisé le montant. Le Congo l'a estimé à 10 milliards. L'Ouganda trouve que c'est un peu excessif. Et donc, c'est cette commission-là dont nous venons de nous fixer pour que, au mois de janvier 2008, elle commence ses travaux qui va essayer de rapprocher les points de vue pour savoir exactement combien l'Ouganda devra payer pour ce comportement qu'il a eu, notamment en Ituri, mais aussi dans le reste de la République démocratique du Congo.
Bon, il faut noter aussi qu'il n'y a pas que l'Ouganda qui doit payer. La RDC aussi est accusée d'avoir saccagé l'ambassade ougandaise à Kinshasa. Et on parle aussi de la dette que la RDC doit à une compagnie aérienne. ougandaise, Lambert Mende.
Exactement, nous avons vu les revendications de l'Ouganda. Je crois que Uganda Airlines réclame $1 million, je crois, à la partie congolaise. Je pense qu'également, il y a quelques centaines de milliers de dollars qui sont réclamés par le gouvernement ougandais pour la mise à sac de l'ambassade pendant la guerre. Ça ne fait même pas $2 million. Nous en réclamons 10 milliards. Je pense que la compensation va passer, mais que la République démocratique du Congo sera certainement celle qui va, en fin de compte, être appelée à être indemnisée par l'Ouganda.
Bipartite RDC Ouganda vers une réouverture des ambassades des deux pays à Kinshasa et à Kampala. C'est l'heure de prendre les réactions des auditeurs avec vous, Claude Kianza. Bonsoir Claude.
Bonsoir Jean-Claude. Nous lance Jules de Kamituga dans le petit Kivu, quoi que l'Ouganda en profitera plus quand la RDC sera présente sur papier et absente sur terrain. JB de Cotacoli dans l'Équateur veut savoir si la bipartite prévoit la réparation des préjudices que l'armée rwandaise et ougandaise ont causé à Kisangani dans la province orientale. Restons toujours dans la province orientale, où Jean-Pierre de Kisiro, dans la province orientale, souhaite que le gouvernement congolais renoue aussi avec le Rwanda après l'Ouganda. Laurent Boko de Bukavu, au sud Kivu, se demande si la bipartite Ouganda-RDC n'est pas une occasion pour effacer politiquement les massacres des Congolais et le pillage de leurs ressources. Enfin, Dieudonné Ilunga, Kiombela de Kamina au Katanga, nous apprend que la RDC a toujours négocié en position de faiblesse. Il dit attendre cette fois-ci quelque chose de positif.
Merci beaucoup, Claude Kianza. Quelques problèmes techniques ne nous ont pas permis, évidemment, ne vous ont pas permis à vous, auditeurs, de suivre les premières réactions des auditeurs. Mais nous y revenons parce que c'est le moment de faire réagir justement nos invités. Donc, on a la réaction de Moulos Jules de Kamituga dans le sud Kivu. Il croit que l'Ouganda en profitera plus car la RDC sera présente sur papier et absente sur terrain. Est-ce que vous êtes de cet avis, José Mbanda, vous, député national?
Je crois que tout cela ne peut se justifier que si les membres de la RDC qui feront partie de la commission ne sont pas efficaces. Et comme vous le savez, nous avons certains chefs de l'État qui déclarent que les accords sont faits pour être violés. Et donc là, il faut aller avec beaucoup de prudence pour qu'effectivement la RDC ne puisse pas perdre. Et là, je suis d'accord avec les ministres que les accords que nous allons signer pour le rétablissement de nos relations diplomatiques ne vont pas annuler ce que l'Ouganda doit à la République démocratique du Congo en termes de dommages causés pendant la guerre. Et donc, le 10 milliards exigés certainement seront négociés avec l'Ouganda et nous allons trouver un accord sur ce montant que l'Ouganda a versé en RDC. Il est vrai aussi que pour ce que l'Ouganda réclame, nous allons, donc la République démocratique du Congo va aussi négocier pour retenir un montant qui sera payé. Et finalement, nous allons faire la compensation et c'est l'Ouganda qui paiera à la République démocratique du Congo. Et donc, nous pensons que le gouvernement congolais désignera des experts compétents qui ne vont pas négocier en position de faiblesse pour que la République démocratique du Congo soit gagnant.
Mmh. La même faiblesse est même évoquée ici par Dieudonné Ilunga Kiombela de Kamina au Katanga. Il dit que la RDC a toujours négocié en position de faiblesse, et donc il dit attendre cette fois-ci quelque chose de positif. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Jean Bosco Lalo?
Oui, même dans les communiqués conjoints qui a passionné la succès de la cette session, il est visible que le Congo se montre quand même, nous sommes un peu, si vous dire, ici à côté des faiblesses, où on est un peu trop, parce qu'il peut déjà être avancé dans beaucoup d'histoires, donc dans les progrès, même, il y a des progrès remarquables, même dans les sphères de santé primaire, l'éducation, même aussi la démocratisation, donc nous avons beaucoup à copier même des sujets sur voir l'esprit de ces communautés-là, et que nous voudrions désormais que les efforts soient fournis de part de nos dirigeants afin de renforcer le niveau des Congolais et même de démontrer ce plus de sérieux de l'extraordinaire. Parce que si on se retrouve face à plusieurs accords, et quels accords on est passé de ce premier de la base, est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi pour que ces accords-là qui sont signés? Parce qu'il y a beaucoup de commissions à créer et que, si je vois bien, il y a déjà plus de actes de l'année, il y a déjà plus de 25 commissions qui ont été créées, et je ne sais pas s'il y a un mécanisme d'évaluation de commissions-là.
Oui, on aura la réponse tout à l'heure avec le ministre, le temps de prendre d'autres réactions. JB de Cotacoli dans l'Équateur, lui veut savoir si la bipartite prévoit la réparation des préjudices que l'armée rwandaise et ougandaise ont causé à Kisangani. Vous avez suivi là-dessus la réponse du ministre. La question sera abordée, ce n'est pas oublié. Et toujours en province orientale, Jean-Pierre de Isiro souhaite que le gouvernement congolais renoue avec le Rwanda après l'Ouganda. Monsieur le ministre Lambert Mende, vous êtes prêt à encourager le gouvernement dont vous faites partie à renouer aussi avec le Rwanda, parce qu'on a quand même l'impression que ça s'active de plus en plus du côté ougandais. Par contre, côté rwandais, le gouvernement ne semble pas être prêté.
Ni le président de la République, ni le gouvernement n'ont jamais cessé de travailler à ramener la paix dans cette région des Grands Lacs. Et donc, le Rwanda faisant partie de cette région, nous n'avons jamais cessé de chercher à ce que cette normalisation arrive, de préférence plus tôt que tard. Mais vous savez, il faut être deux pour négocier, et les efforts continuent avec l'implication de différents partenaires qui peuvent jouer non seulement à des go-between, mais également à calmer certaines ardeurs ici et là. Nous ne décourageons pas, nous ne désespérons pas de pouvoir y arriver. En tous les cas, nous voyons bien que ce qui se passe aujourd'hui à notre frontière avec le Rwanda indique que tout l'intérêt qu'il y a pour notre pays et pour le Rwanda et pour toute la région à ce que cette normalisation arrive. Je voudrais revenir rapidement sur l'affirmation selon laquelle ceci profiterait plus à l'Ouganda parce que la RDC ne sera présente que sur papier.
Oui.
Je voudrais que l'on
cesse
avec cette auto-flagellation, avec ce pessimisme. La République démocratique du Congo d'aujourd'hui n'est pas la République démocratique du Congo d'hier. Nous avons aujourd'hui un chef d'État légitime qui peut parler sans complexe devant ses pairs. Nous avons un gouvernement légitime qui sort d'élection, qui n'a aucun complexe, des complexes qu'on pouvait comprendre au niveau des gouvernements plus ou moins peu légitimes ou de gouvernements qui sortaient de chartes plus ou moins octroyées. Aujourd'hui, la situation est différente. Je voudrais que...
Et on vous attend plus sur le terrain.
Justement, je voudrais que l'on attende sur le terrain avant de procéder par cet optimisme, cet pessimisme qui démobilise. On a la même attitude vis-à-vis même de nos troupes. Lorsqu'elles sont engagées, c'est toujours des Congolais que partent des prédictions négatives qui démobilisent. Et ces prédictions risquent de se réaliser pour le plus grand mal du Congo et des Congolais. Il faut un peu plus de confiance en soi.
Oui. Qu'est-ce que vous répondez aussi au député national, José Ngbanda, qui il souhaite qu'il y ait des membres efficaces dans la commission qui négocie notamment. Est-ce que vous pouvez rassurer les Congolais que les experts que vous envoyez, parce que bientôt là vous en aurez un qui va s'occuper des hydrocarbures, que ce sera des experts capables de bien négocier les intérêts congolais?
Mais si le gouvernement est capable, je ne vois pas comment il pourrait envoyer des incapables. Si nous avons réussi à lever tous ces lièvres qui passaient sous silence il y a encore quelques années, c'est que le gouvernement a une volonté réelle de donner au pays ce à quoi il a droit. Et donc, il ne peut pas envoyer des canards boiteux. Et on a fait allusion, je pense, le président Lalot de la société civile, à un passage du communiqué qui parle des efforts consentis par l'Ouganda en ce qui concerne l'éducation fondamentale qui ont fait notre admiration et pour lesquels nous avons échangé l'expérience avec eux. Cela ne veut pas dire que nous sommes en position de faiblesse. Lorsque nous envoyons l'abbé Malumalu enseigner plus ou moins comment on fait des élections à des pays africains comme le Togo, comme d'autres, cela ne veut pas dire que le Togo est moins fort que le Congo. Ce sont des échanges d'expérience, il faut reconnaître, qu'en ce qui concerne l'enseignement fondamental, l'enseignement primaire, chaque enfant ougandais a son verre de lait chaque jour. Nous voulions savoir comment cela s'organise.
Oui.
Ça ne veut pas dire que nous sommes en position de faiblesse.
Et il faut le faire aussi en RDC, comme
voilà,
on fait l'Ouganda.
Que nous le fassions.
Oui. Merci Lambert Mende, Monsieur le Ministre. C'est avec vous que nous bouclons cette émission Dialogue entre Congolais. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Vous les invitez. Willem Lungamba était à la technique. Daline Fula à la réalisation. Claude Kianza a préparé cette émission pour vous. Nous remercions aussi les amis de la rédaction Kapi Bounia, en leur nom à tous. Jean-Claude Toumba vous dit merci de nous avoir suivis.
Oh, Kapi, oh, Kapi.